Est-ce qu'on a utilisé ça? Non.
Alors, on va remarquer.
Il me semble que je vous en ai parlé. Je parle à vous. Bon, alors ça, nous allons étudier ce matin, parce que c'est un point très important. Cette bénédiction des biens matériels, ou je dirais d'une façon générale de la vocation temporelle, Jacob la refuse, mais elle reste chez Isaac. Vous vous rappelez de cela, non? Bon, alors ça, nous allons étudier en détail ce matin. Rappelez-moi si je change de sujet. Et alors, je commence par ce problème du demi-repentir d'Ésaü. Bon, l'équation de base, vous rappelez, c'est que Ésaü est né, suivant son identité naturelle, est né avec la vocation spirituelle, puisqu'il est le premier-né. Vous rappelez? Et Jacob est né avec la vocation temporelle, puisqu'il est le deuxième. Mais se produit tout de suite une inversion des vocations. Nous avons étudié cela. Bon. Là, il y a un point positif qui nous explique la vision de Isaac. Puisqu'il y aura complémentarité des valeurs, si Ésaü, voué à la vocation spirituelle, choisit par lui-même la vocation temporelle, alors il peut y avoir une unité. Comment j'ai dit tout à l'heure, c'est plus précis, une complémentarité, une convergence des vocations. Là, je vous refais le raisonnement d'Isaac, okay? Et de même pour Jacob. En fait, il y a deux conditions pour que ce plan marche, ce sont lesquelles? La première, c'est que la relation de fraternité soit acquise, ce qui n'est pas le cas, comme nous en avons parlé au moins une ou deux fois. Et ça, c'est ce que Rebecca décèle. Ça ne veut pas dire qu'Isaac ne le comprend pas, mais il fait comme si il ne veut pas le savoir. Okay? C'est clair? Bon. Quelle est la deuxième condition? Rappelez-moi, je ne sais pas comment nous avons étudié ça.
Que chacun assume sa fonction, mais en pensant, en sachant que l'autre, c'est en principe l'autre devrait avoir les deux.
Ça, c'est le premier point. À partir du moment où Ésaü, étant naturellement voué à la prêtrise, choisit la vocation purement temporelle, eh bien, il y aurait convergence des valeurs. Pourquoi ça ne marche pas?
Parce que ça enferme chacun dans leur vocation. On avait vu qu'en principe, quelqu'un qui avait même une vocation spirituelle devait connaître la vocation matérielle. On avait vu ça.
Attendez, je vous refais un peu cet analyse parce que je ne me rappelle pas comment j'ai étudié cette question. Bon, pour le premier point, la première clause, c'est que, okay, il faut qu'il y ait amour du frère pour le frère, et nous voyons que cela n'a pas existé. Et cela n'a pas existé dans les deux sens. En tout cas, au premier stade. Parce qu'au deuxième stade, on voit que Jacob a une tentation, disons, d'amour pour Ésaü qui lui coûte cher, mais enfin, ça nous le reverrons tout à l'heure. Est-ce que je vous ai cité une Gemara sur un verset du roi David, d'un verset des psaumes de David, qui explique le péril de ces deux vocations? Est-ce que nous avons étudié un texte, enfin une source, qui montre que dans les deux vocations, on peut être Sadhu Racha?
Oui.
Bon, alors c'est ce plan-là que je vais reprendre pour expliquer la deuxième clause. La vocation matérielle, je mettrai quand même. En un peu, c'est clair pour vous, tout le monde, quand même. Okay. Et la vocation spirituelle, au revoir. Il y a un autre vocabulaire qu'on appelle surtout dans la racine, c'est Gashmi. Ici, le terme est Gashmi, ça veut dire les tendances instinctives, matérielles, la jouissance naturelle, matérialiste. Homri, Gashmi. Ohani, ça veut dire spirituel. Mais de quoi s'agit-il? Dans cette vocation-là, c'est l'aménagement. L'aménagement de ce monde-ci. C'est-à-dire, finalement, à la limite, pour prendre le vocabulaire de la culture contemporaine, les sciences et les techniques.
c'est ça, l'engagement,
l'aménagement de ce monde d'un point de vue, du point de vue matériel. Vous voyez tout de suite que lorsque ces vocations-là sont, en fait, pour les vocations de la science qui sont coupées des valeurs spirituelles, ça amène au matérialisme, avec tous les défauts que ça peut représenter, la catastrophe que représente une vision matérialiste du monde, et en particulier la morale et la politique qui correspondent à la mentalité matérielle. Vous comprenez ? C'est-à-dire, le critère étant, le critère dominant étant, la volonté de puissance, la volonté de jouissance. Lorsque nous verrons la figure, l'identité Esaü, Edom, Rome, ça veut dire les nations qui se bâtissent sur un projet de puissance. Il y a, vous voyez, dans ce couple Israël et les nations, là, il y a une ligne de démarcation absolue à travers toute l'histoire. Et c'est un défi qui est donné à la société juive, à Israël en général, c'est qu'Israël est la seule nation qui ne se fonde pas sur un projet de puissance, mais sur un projet moral. Vous comprenez comment nous retrouvons ce couple Israël et Goyim. Et avec comme chef de file, un titre de proue, les Goyim, Edom, Esaü, Esav, Rome, c'est-à-dire l'installation de l'État en tant que, la raison d'État et tout ce qui va avec au niveau moral politique, en tant que projet de puissance. Alors, si c'est coupé. Alors, ce qu'on apprend, c'est que tant dans cette vocation que dans celle-là, on peut être tzadik pour achat. Parce que vous devez avoir éclairci, quelqu'un peut pas dire, mais c'est le bras. N'importe quoi. Je vais vous donner une référence à ce sujet. Nous avons étudié, me semble, un rachis. Si vous ne l'avez pas noté, je vous donnerai la référence tout de suite. Est très important et qui montre que dès les entrailles, vous croyez de cela, on étudie, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'au fond, je n'ai peut-être pas eu le temps de vous donner cette référence-là, c'est assez important. Alors, voilà quelle est la deuxième chose. C'est que lorsque l'homme de la vocation matérielle s'occupe de la vocation spirituelle, il y a échec, il la rend impure. Ça mène au problème. Ça ne veut pas dire que dans le paganisme, dans la civilisation païenne, je vous ai une parenthèse tout à l'heure, que dans la civilisation païenne, il n'y a pas une vie spirituelle, mais elle est impure, elle est asservie aux forces naturelles. Vous comprenez bien la différence? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, si on veut faire une philosophie spirituelle, spiritualiste, à partir d'une vision purement scientiste du monde, purement naturaliste, on tombe dans le paganisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vie culturelle, spirituelle, riche, mais c'est cela, précisément, l'échec de l'homme, de la vocation purement matérielle, touchant le problème spirituel, il le rend impur. Voilà pourquoi c'est la deuxième cause. Lorsque Esaü commencera son demi-repentir, si j'ose dire, rappelez-vous, c'est la main, c'est les mains, c'est les mains d'Esaü, la voix, c'est la voix de la cause, les mains, c'est les mains d'Esaü, là, il y a échec. C'est-à-dire que dans cette problématique, il n'y a qu'une des équations qui mène à une solution, c'est Jacob, l'homme de la vocation spirituelle, s'occupant du problème matériel. Il y a bénédiction. Voilà, si vous avez bien compris cela, vous comprenez tout ce problème. Bon, c'est encore un peu embrouillé. Hein? Pourquoi Jacob peut réussir dans les tâches matérielles? Parce que c'était sa vocation première naturelle, ce monde-ci. Hein? Sa vocation autonome de sa propre liberté, le choix de son équation personnelle, c'est la vie spirituelle, c'est le monde à venir. Alors lorsque, fort de sa propre vocation, il s'occupe des tâches matérielles, il prend les mains des Esaü, vous rappelez ce que ça signifie, alors il peut y avoir unité de valeur. Mais dans l'autre équation des Esaü, vous voyez, il est disqualifié a priori, si j'ose dire. Et il y a une sorte de fatalité qui bloque le destin des Esaü. Mais nous savons que pour nous, il n'y a pas de fatalité. Un Esaü hébreu, c'est quoi? C'est, d'où la parenthèse, un Esaü hébreu et qui réussit, Joseph. Vous voyez? C'est cela qui nous servira d'approche. Vous voyez, c'est clair? Bon, comprenez bien d'abord l'analyse formelle, ensuite je vais l'enrichir. Mais c'est très important parce que ça nous permettra de comprendre l'identité israélienne contemporaine, qui est un Jacob avec les mains des Esaü, mais dans ce sens-là. C'est Joseph qui parlait là. Voilà la question que je pose. Est-ce qu'un Esaü peut être tzadik? Oui, dans l'équation Joseph. Non, dans l'équation Ésaü. Dans l'équation Ésaü, il y a quand même une fatalité. C'est que, bien que nous sachions théoriquement que l'homme de la vocation temporelle peut être sadique de la vocation temporelle, tout se passe comme s'il y a une impossibilité de fatalité. Que je vais expliquer de façon très simple. L'histoire ne nous montre pas des hommes de vocation purement matérielle qui réussissent à aborder à la moralité. Même si, par la connaissance intellectuelle qu'ils reçoivent de Jacob, qu'ils reçoivent d'Israël, qu'ils reçoivent de la Bible, à la limite, ils connaissent l'éthique, l'engagement réel, concret, existentiel de la morale politique, finalement mène toujours à la barbarie, au totalitarisme, à ce qu'a été Rome, dans tous ses avatars. N'employez jamais ce mot de avatar comme je viens d'employer, c'est le sens populaire du mot en français, mais étymologiquement en sanskrit, il a tout autre sens. Alors, si jamais un jour vous parlez dans un public plus ou moins éclairé, et il vous dira de quoi, n'employez pas ce mot-là dans le sens faux ou banal. Avatar, ça veut dire quelqu'un d'Arka qui n'a pas d'avatar dans le sens. C'est ça. Vous savez ce que ça veut dire un avatar? Non.
C'est un illuminé, c'est un.
C'est un avatar d'un homme. Non.
C'est-à-dire qu'il
avant,
dans une précédente, c'était l'autre personne.
Mais rien à voir avec l'illuminé. Ou pas. C'est vrai ce que tu dis, mais ça éclaire pas le mot avatar. D'après la tradition extrême orientale, et tout n'est pas complètement faux, la plupart des créatures. De ce que nous appelons les créatures, chez les, dans les nuits, enfin dans le dîme, ce n'est pas les créatures, mais disons les hommes, les personnes humaines, viennent sur, dans la vie terrestre pour améliorer leur personne, disons, okay. Mais il y a des personnes exceptionnelles qui viennent, pas pour s'améliorer, elles sont parfaites d'emblée, mais pour aider les autres. C'est ça qu'on appelle des avatars. C'est clair ? Bon. Alors, suivant les historiens, c'est pas ce que les auteurs eux-mêmes disent, enfin, suivant les historiens, les grands hommes qui ont traversé l'histoire du monde, ils l'ont illuminé, c'est pour ça que tu as dit illuminé. Okay.
Non, mais
pas
c'est fini.
Hein ?
Mais
non, mais c'est le mot illuminé. Il n'allait pas du tout.
Je veux dire, c'était une personne humaine illuminée qui était détenteur et enseignante d'une parole.
Très bien, ça se dit pas illuminé. Ah, peut-être qu'il y a, un emploi qui est inspiré, pas illuminé. Attends, je vais voir lui. Tu as lu un livre de Churet, peut-être ? Churet ?
Non, mais j'ai eu l'occasion de trouver dans une communauté de gens comme ça, c'était pas mal.
Non, parce que je me souviens maintenant, il y a un livre comme ça qui s'appelle les grands illuminés. C'est de Gustave Churet, si vous trouvez ça. Mais. Et non, je crois qu'il dit les grands inspirés. Enfin, je ne me rappelle pas, j'ai lu ça il y a 40 ans. Je crois. Mais le mot illuminé a un sens péjoratif. Il faudrait regarder plutôt les inspirés. Bon, alors, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire ceux précisément qui ne viennent pas en Gilgul pour faire un tikkun de leur nefesh, mais qui viennent pour éclairer les autres. Hein. Cette question vous intéresse, enfin les historiens des traditions extrêmes orientales mettent tous les grands hommes de l'humanité, Moïse y compris, et puis tous les autres, dans qui serait l'avatar du même être à l'origine, lequel, mais c'est faux, réellement. Et alors, ce qui est corollaire, c'est que puisqu'ils sont absolument parfaits pour pouvoir venir sur Terre, ils acceptent sur eux un défaut, même sinon ils ne peuvent pas venir dans le monde infini. C'est ça. Bien. Que c'est le même être complètement. Que l'histoire des hommes soit visitée par des êtres qui viennent la guider, c'est vrai. Mais que ce soit le même être qui revienne dans des réincarnations différentes, ça c'est faux. Bon, alors, revenons à notre problème. Je vais vous mettre en colère de toute façon. Ah, mais la sortie est sûrement un avatar permanent. Bien. Qu'est-ce que
Vous avez la vocation matérielle, mais choisit la voie spirituelle. Le choix qui a la plus grande force, c'est en principe votre principe, la vocation matérielle. Et qui s'occupe de la voie spirituelle, il. de manière pure, dans ce qui est rituel aussi.
C'est ça, c'est ce qui va arriver à Ésaü.
Non, ceux qui veulent passer à Ésaü, c'est rien.
Non, justement, c'est ce que vous êtes, je suis en train de vous expliquer pour Jacob. Jacob naturellement, il a la capacité de résoudre les problèmes matériels. Il est né le deuxième, vous vous rappelez de ça? Bon. Rappelez-vous cela, dans les sociétés traditionnelles du Moyen-Âge, de l'Antiquité, le Moyen-Âge ici n'a pas un sens péjoratif, eh bien, c'est le fils aîné qui est l'héritier du seigneur. Le deuxième, c'est le cadet, d'où l'origine est cadet, les cadets de Gascogne, vous vous rappelez? Le cadet, on lui donne une vocation, un métier, une vocation. En général, un métier honorifique dans la société féodale, c'était le métier des armes. Okay? Mais, ou alors, on l'envoie au couvent. C'est pourquoi vous avez tellement, dans cette société-là, d'hommes qui sont évêques et capitaines. Vous vous rappelez de cela? Vous avez lu les Trois Mousquetaires, qui étaient quatre. Bon, là-dedans, il y en a un, c'est Porthos, je crois.
Non, c'est Aramis
qui était. Ah, c'est Aramis. Aramis ou Bedami, c'est ça. Pas Yéren Mitzrayim. Bon. Tu aurais bien voulu être curé, c'est ça, mais il est finalement mousquetaire. Il faut lire tous ces romans-là parce que ça nous fait connaître exactement ce qu'était une société traditionnelle en Occident. Pour savoir comment elle va. Quelle est la réponse?
Il n'est pas là, je vais parler de ce qu'il fait.
On va voir une tête
alors. Non, bah, il était devant lui, on va monter en question, devant tel. Et bon, elle a dit que ce serait peut-être de m'arriver à me voir avec Shlomo si c'est possible.
D'accord. Bon, rappelez-moi que j'ai un petit fil à donner à la sortie. Voilà ce que je veux dire. Jacob naît avec la capacité terrestre, mais il a la vocation céleste, pour dire ça comme ça. Sa vocation, c'est d'être l'homme de l'étude, de la Torah, de la vie spirituelle. Comment ? C'est lui qui a voulu être comme ça. Alors c'est sa vocation dans le sens strict. Il va être obligé de s'occuper des tâches matérielles, et il le peut. Pourquoi il le peut ? Parce qu'il en avait tout le potentiel. Mais comme il est l'homme de la vocation spirituelle lucide, s'occupant des tâches matérielles, il met la bénédiction dans la matière. Tandis qu'Ésaü, lui, son équation réelle, le choix, c'est la vocation matérielle. Il se fait avoir par sa propre tâche. Lorsqu'il a la tentative du repentir spirituel, et il le peut, puisqu'il est né comme cela, eh bien, et il aboutit à une catastrophe. Ça y est, c'est clair ? Il rend impur les tâches matérielles. C'est ce qui est arrivé avec l'apparition du christianisme, comme demi-repentir des Ahus. Et vous voyez que l'histoire d'Ésaü ne ressemble pas du tout à celle d'Ishmaël. Ishmaël, c'est l'autre fils d'Abraham. Tandis que Ésaü, c'est l'antagoniste, l'envers de Jacob. Okay? C'est ça que je voulais bien vous expliquer ce matin en première partie. Okay?
Je ne crois pas que Ésaü, il a, de par sa science, la vocation spirituelle.
Qu'est-ce que ça veut dire, la vocation spirituelle? Il aurait dû être le prêtre. Le Bechor, le premier-né, devait être le Kohen. Il refuse. Et il préfère la vie dans le champ, c'est-à-dire la nature. Bon. Quand il va s'apercevoir, et finalement il devient un barbare, comme Ishdami, il devient un homme sanguinaire. Imaginez l'histoire de la société humaine s'il n'y avait pas eu le message des prophètes de la moralité. Ce serait la jungle, comme cela a été dans les temps de barbarie. Vous comprenez ? Le projet de puissance, de volonté de jouissance, d'utilisation, d'installation, d'aménagement matériel de la planète, la mène à la société de consommation. La société de consommation, c'est la jungle, il n'y a pas de morale. Vous comprenez ce que je veux dire ? Cette société de consommation que nous connaissons aujourd'hui, elle est éclairée, elle est illuminée, je ne sais pas comment dire, irradiée par un message qui vient d'ailleurs, la morale. Vous comprenez ? Mais si elle n'avait pas reçu le message public, s'il n'y avait pas même un peu de christianisme dans l'Occident, l'Occident serait vraiment la barbarie totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une capacité technique qu'il n'y a jamais eue dans l'histoire des hommes en Occident. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien. Alors, le problème est que lorsque cet homme de la vocation matérielle, les sciences et les techniques, ressent l'exigence spirituelle et s'en approprie, il la rend impure. Oui, mais
alors quand il la recherche, c'est comme un choix complet.
Donc, oui, mais voilà pourquoi ce choix est juste. Lorsqu'il réussit à l'échelle individuelle, ça veut dire que c'est un Jacob. Mais ce que je vous expliquais, c'est que la notion d'un Esav Tzadik n'existe pas. Esav Tzadik, ça veut dire Jacob. C'est clair?
C'est quand le choix est tellement profond qu'il ne peut que aller là-dedans,
c'est la loi spirituelle qui vient Jacob. Tandis que s'il le fait par la jalousie ou parce qu'il se met à atteindre le niveau de Jacob, s'il le fait. S'il veut le faire à sa manière, okay, un nouvel Israël, alors il aboutit à ce qu'il a obtenu, l'impureté du Christ. Et pourquoi, à l'échelle individuelle, il y a, je vous ai cité une Gemara qui dit que, à la fin des temps de l'exil, la majorité des convertis viendront de Esav. C'est-à-dire, à l'échelle individuelle, Esav sera suffisamment lucide pour savoir que ce qu'il cherche, c'est être Israël. Il rejoint Israël, la Mamouk, c'est fini. C'est réussi, à l'échelle individuelle. Pourquoi, à travers tout le temps de l'exil, il y a un tel empêchement? Ça, c'est le problème du demi-repentir, c'est l'antisémitisme. Il faut devenir Jacob, c'est-à-dire juif, ça, on ne veut pas. Vous comprenez? C'est voilà ce qu'il faut comprendre. Tout à l'heure, une petite parenthèse, il y a énormément de bouillonnement actuellement en Occident. Je ne sais pas si vous remarquez le nombre de livres qui paraissent sur des sujets juifs. Je ne sais pas si vous suivez ça dans les journaux. Voilà, rien que dans la semaine où j'étais à Paris, il y en a 4 ou 5 qui sont sortis. Enfin, les colloques partout, les symposiums partout. Mais là, la parenthèse que je voulais surtout ouvrir, c'est que ça se mêle à une recrudescence d'antisémitisme assez grave. C'est pire que ce que je vous ai jamais dit. Et ça l'alimente, cet antisémitisme, une sorte de subversion intellectuelle juive actuellement qui travaille dans tous les milieux et qui est assez inquiétante par rapport à la réaction d'égoïme éventuelle. Je vais raconter une petite blague pour vous montrer un peu dans quelle atmosphère ça se passe, et c'est assez inquiétant. C'est une histoire qu'on racontait en Allemagne dans les premiers temps du nazisme. Les origines de l'antisémitisme nazi. C'est un dialogue entre un Allemand et un Juif. Alors l'Allemand qui dit au Juif, bon, toi tu es Juif. Non, moi je suis Allemand. C'est le Juif qui répond. Il dit, comment tu es Allemand? Et tu es Juif. L'Allemand c'est moi. Il dit, non, toi, moi c'est l'Allemand, toi c'est le Juif. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, bon, si c'est le Juif qui est l'Allemand, alors l'Allemand, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il est Juif. Vous voyez le problème? Je
ne peux pas être tous les deux Allemands.
Comprends bien une chose. Le goy allemand, c'est lui qui est l'allemand. Être allemand, c'est être allemand. Alors le juif qui se prétend que lui, c'est l'allemand. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il est? Alors la réponse du juif, c'est à toi, tu es goy. Allemand, c'est moi. Et toi, goy. Vous voyez ce qui se passe. Parallèlement, là, c'est le problème de la conscience chrétienne, c'est l'allemand qui se croit juif. Et qui dit même, je suis le vrai juif. Et alors, toi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es le juif. Ouais, mais moi, je suis Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel bagaille mental on se trouve. C'est le désordre cérébral absolu. Et alors, ce qu'il y a, c'est actuellement, sur lui précisément, dans cette recherche de spiritualité qui s'oppose à cette espèce de micmac judéo-chrétien, une recherche de spiritualité païenne. Il y a énormément de livres qui paraissent actuellement en France pour retrouver les valeurs païennes, c'est-à-dire un mouvement fasciste qui est en train de se développer avec comme figure centrale, je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Le matin des magiciens de Poels. Alors c'est Poels qui est à la tête de ça. Voilà, la négation des valeurs bibliques judéo-chrétiennes, judéo-chrétiennes dans le même sac, de retrouver une spiritualité au nom de la science, matérialiste, c'est-à-dire déterministe, c'est-à-dire le vrai, la pensée. Mais c'est bien en clair maintenant. Bon. Alors, je reprends la parenthèse. Ce que je vais vous expliquer, c'est ceci. C'est que, bien que nous sachions théoriquement qu'on peut être la vocation matérielle et être tzadik, et c'est la figure de Joseph qui apparaîtra, en fait, dans la réalité, on voit que tout se passe comme si c'est pratiquement comme ça. C'est-à-dire que, pratiquement, il y a cette espèce de risque perpétuel de se faire avoir par les tâches matérielles, une espèce de conditionnement du problème qu'on a. Si on fait un petit peu de méthodologie des sciences, vous savez ce qu'on appelle un système clos. Je vous donne un exemple parallèle. Un système clos qui s'installe entre l'observateur et l'objet observé. Ça fait une espèce de cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle, pas l'équation personnelle, mais la déformation professionnelle. C'est-à-dire, lorsqu'on est sensible à un aspect des valeurs, alors on est conditionné de manière telle qu'on devient complètement aveugle aux autres valeurs. On est une espèce de spécialisation du travail qui fait, mais ça joue ici et ça joue pas là, voilà ce qu'on découvre. C'est que Jacob, lors de la vocation spirituelle, est à l'aise dans le problème matériel et il y met la bénédiction. Tandis que l'homme de la vocation matérielle se fait avoir par sa propre vocation. Un homme doué aux tâches de l'exploration et d'élaboration et d'aménagement de la matière finalement devient matériel. Comme s'il y avait là une difficulté insurmontable. Le cas de Joseph étant le miracle d'un fils de Jacob. Vous comprenez ? C'est-à-dire, si Ésaü n'est pas hébreu, s'il n'est pas Jacob, il ne peut qu'être le rachat de la matière. Ça dit de la matière, ça n'existe pas. Vous comprenez, C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un Ésaü devenant tzadik ? C'est Jacob, c'est Joseph. Bon. C'est pourquoi, d'ailleurs, les sources du Midrash, la Gemara, définissent Joseph comme étant Sitno Shel Esav, l'antagoniste des Esav. C'est en Joseph que Jacob triomphe des Esav. Jacob fait la preuve qu'il peut être un Ésaü cachère. Cette preuve, c'est Joseph. Vous comprenez ? Bien. Alors, nous allons voir rapidement cette suite. Qui se trouve donc dans les ministres que je vous apporte. Je l'avais trouvé la dernière fois, puis je n'ai pas noté, alors une minute. אולי למדנו פעם את זה בשיעור על הפסוק שומרה נפשי כחסידני. לא זוכרת? רק שנייה, שזה כמה מולה לנדע. Alors écoutez, sur un verset des psaumes qui se trouve dans le psaume 86, il y a le verset suivant, les David, psaume 86, notez le rapport. Les David, Shomra Nafshi ki Hasidani, ça veut dire Shomra Nafshi, traduisez, Shomra Nafshi, Ishmor, oui, garde, préserve, Nafshi c'est pas mon âme, en effet, bon, ma personne, qui chassidani, parce que je suis chassid. Alors, la question de la Gemara est la suivante. Il y a, si vous voulez, une difficulté, un paradoxe. Qu'est-ce que ça veut dire être chassid ? Ça veut dire être pieux. Donc, il a des mérites. Celui qui est chassid, est-ce qu'il a besoin d'une protection supplémentaire par le fait qu'il est chassid ? Est-ce qu'il n'est pas protégé ? Vous comprenez ? Alors, la Gemara va nous faire comprendre que c'est périlleux d'être chassid. Et elle donne deux explications. Elle va nous montrer qu'on peut être chassid dans les tâches matérielles et chassid dans les tâches spirituelles. Et ceci, je vous ai expliqué de façon générale, pour montrer que dans les deux vocations, il y a le même péril. On peut être tzaddik ou racha. Et ensuite, j'arrive au deuxième point, mais tout se passe comme si l'homme de la vocation matérielle est défavorisé d'emblée par rapport à l'homme de la vocation spirituelle. C'est-à-dire, vous aurez réfléchi sur cette dialectique-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à un certain moment un choix. On a préféré plutôt cela que cela. Et le choix est absolument libre. Et quel que soit le point de départ de la vocation génétique, si vous voulez, cette histoire nous montre qu'il peut y avoir un choix personnel, lucide, qui va contre même la tendance d'inclinaison naturelle. Et par conséquent, celui qui a choisi la vocation matérielle pourrait plaider, mais c'est une tâche insurmontable. Si je suis devenu rachard, ce n'est pas de ma faute, je suis écrasé par mon travail. Okay? Je me suis fait avoir dans le système clos dont je vous ai parlé. Okay? Mais on pourra lui répondre, tu as choisi. Est-ce que c'est clair? Chez les kabbalistes, il y a une prière. Avant d'avoir un enfant, avant de faire un enfant, il y a une prière dans laquelle on demande que l'enfant qui naisse n'ait pas comme vocation de métier un métier qui mène à faire le mal. De toutes les façons, tous les métiers, et je vous parlais de ça un peu de façon générale, dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour faire tous les métiers qui sont nécessaires à faire. Alors, en fait, on est libre. Dans toute société, il y en a un qui devient charpentier, il y en a un qui devient médecin, il y en a un qui devient avocat, etc. Et on est libre de choisir. Et alors, finalement, on choisit d'après ses vocations, d'après ses tendances. On choisit aussi d'après une espèce de conditionnement du marché au niveau sociologique. Okay? Mais c'est un problème pour lui-même. Quels sont les facteurs qui font que quelqu'un se case dans telle case de la société? Mais il y a des métiers propres et des métiers malpropres, dans tous les sens du terme, mais surtout au niveau moral. Et donc, il y a une sorte de conditionnement génétique. Et on sait très bien d'autre part, par un autre enseignement de la Gemara, que ce n'est pas le métier qui rend riche ou pauvre. Dans n'importe quel métier, on peut être riche ou pauvre. Vous comprenez? Et ça, c'est visible à l'œil. Vous avez des médecins qui resteront toute leur vie à traîner la savate, et d'autres qui deviennent des milliardaires. Vous avez des ferblantiers qui restent ferblantiers, d'autres ça devient des industriels. Mais c'est l'issue du même problème, faire des casseroles. Oui, oui, après le... Dans tous les métiers, c'est comme ça. Donc c'est que le fait d'être riche ou pauvre, ça vient encore d'ailleurs. Mais, alors étant donné que dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'être ceci, cela ou cela, métier qui mène à faire plutôt le mal que le bien, à cause de ce conditionnement dont je vous parle, vous voyez, alors on prie pour que l'enfant puisse choisir plus librement, si c'est possible, un métier qui n'entraîne pas un conditionnement difficile.
Alors, c'est la vocation personnelle qui amène un métier ou c'est le métier qui entraîne un comportement?
La vocation personnelle amène à tel ou tel métier. Et finalement, il y a des métiers matérialistes, si j'ose dire, qui mènent à plus d'immoralité que d'autres. Alors, il y a encore une troisième chose dans la Gemara de Kifi, dont je vais vous parler, où la Gemara nous dit quel est le métier idéal pour un juif. Ça va vous étonner. C'est d'être orfèvre, bijoutier, mais travaillant sur des métaux précieux pour faire des choses belles, c'est le plus beau métier. Okay. Et je ne parle pas de la vocation. La vocation, c'est médecin, ça, je vais en parler souvent, okay, à condition que ce soit une vocation. Mais du point de vue du métier, à condition qu'on travaille sur des métaux, des pierres qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on devient commerçant, pierres précieuses, c'est autre chose. Okay. Et c'est un métier où on gagne beaucoup vite, avec peu de temps de travail, et ça reste disponible pour pouvoir étudier. Et ça y est, c'est clair? C'est une page très importante dans la loi. Alors ça vous... Dans Kiddushin, quelle page 30 à peu près, 30, 31, 32. Et alors, ça vous fait comprendre pourquoi il y a tellement de juifs pieux traditionnellement qui ont ce métier-là, diamantaire. En général, les pierres en question ne leur appartiennent pas. De temps en temps, ils ont un petit coup de marteau et puis avec ça, ils gagnent leur vie pour la semaine. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Je me rappelle encore en Algérie, en Afrique du Nord, c'était partout, les Talmidei Chachamim, en général, ils avaient ça comme métier. C'était des petits bijoutiers, et avec quelques heures de travail par semaine, ils gagnaient leur vie, et le reste du temps, ils pouvaient étudier. Et ils avaient un métier beau. C'est-à-dire, on travaille dans des belles choses, et on a l'esprit pas sali par des métiers qui salissent. Vous comprenez ce... D'ailleurs, dans cette page, on nous enseigne que père, les parents ont trois obligations vis-à-vis de leurs enfants. C'est leur apprendre un métier, double analyse des métiers, lesquels sont les meilleurs, quels. Leur apprendre un métier, leur apprendre à nager et leur apprendre à monter à cheval. Aujourd'hui, on est déjà à bicyclette, on fait ça de même. À nager, parce que si jamais il voyage, il faut qu'il se sauve, et si l'enfant ne sait pas nager, c'est le père qui est responsable du suicide. Vous savez qu'est-ce que c'est un suicide? Un juif suisse, suicide. Et. Hein? Et le. Non, ça c'était une blague. Hein.
C'est de là que vient l'image d'un juif associé à l'argent. Soit...
Probablement, probablement. Non, mais là, là au Moyen-Âge, les métiers du juif avaient été imposés aux juifs. Mais les juifs n'aiment pas le commerce.
Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent?
C'est bizarre ça, lui,
c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça implique pour les parents quand vous dites que les parents doivent apprendre le métier à l'enfant?
Apprendre?
Apprendre un métier.
Voilà, il faut. Le père n'a accompli son devoir vis-à-vis de son fils que premièrement s'il lui a appris la Torah. Bon, ça c'est le premier commandement. Et ceci dit, pas tous les pères ne sont capables, donc il faut qu'il se débrouille pour que trouver un maître pour qu'il lui apprenne la Torah. Et l'idéal, c'est que ce soit le père qui enseigne la Torah à son fils. Mais cet idéal est resté très idéal, et c'est pourquoi il y a des maîtres qui s'occupent des enfants des autres. Okay, bon. Mais ça, c'est le premier devoir. Deuxième devoir, il faut lui apprendre un métier, c'est-à-dire se débrouiller dans la vie, et ne pas dépendre de la charité d'autrui. C'est-à-dire un Talmid Chacham qui n'a pas d'autre métier que d'être Talmid Chacham, c'est pas aimé dans le Talmud, ça, c'est pas juif, j'allais dire. Bien que par la suite, l'histoire a fait qu'il y a beaucoup de gens comme ça, des gens qui ne sont que Talmid Chachamim, mais ils gagnent leur vie en étant Melamed Tinukot, c'est-à-dire en apprenant aux enfants des autres, en étant maître d'école. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans tous les cas, c'est devenu un métier. Mais les plus grands des Tanaïm étaient, je ne sais pas moi, cordonniers, ferblantiers, ils gagnaient leur vie comme ça, ou bijoutiers. Par exemple, un grand qui est Rabbi Yochanan, qu'on appelle Rabbi Yochanan Assembla. Rabbi Yochanan, le cordonnier, quand on voulait résoudre un problème difficile de Torah, on allait s'asseoir à son échoppe, attendre qu'il ait fini de clouer une semelle pour lui dire « Rabbi, tu peux nous expliquer ?» Alors regardez comment c'est arrivé aujourd'hui que c'est à l'envers.
C'est pas bon, être
Talmid Chacham,
c'est un métier rêvé, puisqu'on étudie et on est payé pour ça.
Mais c'est pas un métier,
Talmid Chacham. Non, mais justement, je veux dire, c'est incroyable, enfin, professeur, c'est ça. Même étudier.
La décision de payer les rabbins a été prise à Algérie, enfin, les rabbins d'Algérie, a été prise au XVIIe siècle, 16e et demi, par Rabbi Samar Doran. Je ne sais pas si vous l'avez appris, il s'appelait Durand, d'ailleurs. Rabbi Tamar Doran. Okay. Durand, c'est un nom des juifs espagnols.
Okay.
Durand, ok. Et alors, Doran.
Sans le D.
Sans le D, ok. C'est juste. Mais c'était des grands Hamid. Les Doran d'Algérie, c'était des grands, quoi. La règle était comme ça. C'est qu'on est nommé comme rabbin de la communauté qu'un homme riche par lui-même. Pour qu'il puisse être indépendant, tout simplement, je vais raconter une histoire. Pour qu'il puisse être indépendant. Et quand il est arrivé que les Rothschild n'envoyaient plus leurs enfants à l'école rabbinique, alors on a été obligé de prendre des Talmid Chachamim qui n'étaient pas riches, qui avaient besoin de travailler pour vivre. Alors on leur a dit, au lieu que tu travailles pour vivre, on va te payer le prix de ton travail et tu seras le rabbin de la ville. Vous comprenez? Mais il n'est pas payé pour le travail, il est payé pour son temps qu'il ne peut pas travailler. Vous y êtes? Parce que sinon, on dépend de celui qui le paye. Et là, c'est la catastrophe. Vous avez compris le problème. Je vais vous raconter une histoire qui montre bien à quel point on était soucieux que le rabbin ne soit absolument pas dépendant du président de la communauté. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je me rappelle très bien. Il y a très longtemps, j'ai assisté à une réunion pour l'avenir de l'école rabbinique à l'époque. Et Rothschild qui avait dit, bon, il s'est passé 40 ans, alors je peux vous raconter, et je ne vous dirai pas lequel des Rothschild, qui avait dit, mais cette école rabbinique, elle me coûte autant que mon écurie de course. Voilà, authentique, hein, ça j'ai entendu avec mon oreille. Elle me coûte autant que mon écurie de course. Et encore, vous ne sortez pas des grands rabbins. Alors, je lui ai répondu, comme moi je ne faisais pas partie de l'école rabbinique, je pouvais parler, les autres ne pouvaient pas parler, vous voyez le problème. J'ai répondu, écoutez, monsieur, il n'y a pas de grands rabbins et de petits rabbins, il y a des grands hommes et des petits hommes. Si vous nous donnez les grands hommes, vous aurez des grands rabbins, les petits hommes, vous aurez des petits rabbins. Comprenez le point. Enfin, vous n'êtes pas des grands hommes. Alors, j'ai dit, le jour où il y aura un Rothschild qui ira à l'école rabbinique, il y aura peut-être un grand rabbin. Alors, là, ici. J'en arrive donc au troisième point que je vous raconte l'histoire. Ça se passe en Roumanie, si je me rappelle bien. Premièrement, d'enseigner la Torah, le père a donné un corps à son fils, il faut lui donner son âme. Vous comprenez? Et s'il lui donne un corps sans âme, il n'a pas accompli son devoir vis-à-vis de son fils. C'est père. Or, la société étant telle que les parents ne peuvent pas la plupart du temps, alors c'est pour ça qu'il y a des maîtres qui enseignent aux enfants des autres. Ça y est, c'est clair. Deuxièmement, mais ce n'est pas un métier, parce que je veux dire, il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Et cette mitzvah d'étudier la Torah, on ne l'accomplit pas si on étudie pour enseigner, parce qu'il y a un intérêt, enseigner. Je vous ai parlé de ça une fois. La raison pour laquelle la Torah qu'étudie l'État Médéchamim n'est jamais enseignée, quand c'est leur métier d'enseigner. C'est ce qu'on appelle le nistar, ce qui reste caché. Parce que pour accomplir pour eux-mêmes la mitzvah du Talmud Torah, il faut qu'ils étudient des choses qu'ils n'enseigneront pas. Vous avez compris la catastrophe. Comment ? Bon, mais ça, étudier ce qu'on va enseigner, c'est pas l'ishma. Ça veut dire que j'étudie pour un intérêt bon, positif, mais c'est un intérêt. Or, les mitzvot n'ont pas été données pour en retirer un intérêt. Il y a une mitzvah d'enseigner. Donc il faut étudier pour enseigner. Mais il y a une mitzvah d'étudier. Et si j'étudie pour enseigner, cette mitzvah, je n'ai pas accompli, pour moi. Donc il faut que j'étudie des choses que je n'enseignerai pas. Alors toutes ces choses qu'on étudie, qu'on n'enseigne pas, c'est ça la Torah cachée. Ça y est, c'est clair. Et pourquoi la Torah est cachée? Parce qu'enseigner, c'est devenu un métier. C'est pas plus compliqué que ça. Ça y est? Bon. Alors.
Il y a quand même un plaisir d'enseigner. C'est-à-dire le plaisir d'avoir, de transmettre une connaissance à quelqu'un. Vous pouvez être payé.
C'est
vital. Alors, à plus forte raison. Et si en plus il y a du plaisir, c'est pas caché.
Parce que.
S'il y a de la joie, oui, le plaisir. Tu voulais dire la joie? Ah, c'est très différent. Simra shel Torah, c'est la joie. Mais le plaisir, ça veut dire j'ai tiré une jouissance. Non, il y a des gens dont la jouissance, ça consiste à enseigner parce qu'il y a une espèce de domination de l'intellect sur. Alors ça, c'est interdit. C'est comme si on jouait aux échecs. C'est pas le limoune. La joie d'enseigner, c'est une chose. Mais. Cette espèce de vice, c'est la drogue, hein, qu'il faut parler à quelqu'un d'autre et l'assujettir avec ce qu'on lui dit, ça c'est interdit, ça c'est un art, c'est de la jouissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est une drogue. Il y a beaucoup de professeurs qui sont drogués comme ça. Vous avez remarqué, ils étudient la Torah comme on prend une drogue. Vous comprenez ce que je veux dire? Méfiez-vous de ça. Ensuite, donc, enseigner la Torah, enseigner un métier. C'est-à-dire, celui qui n'enseigne pas un métier à son fils est responsable si son fils devient gangster. Voleur de grand chemin, d'ailleurs, dit la Gemara. S'il n'a pas un métier, il finira par voler les autres. Parce qu'il faut bien qu'il mange. Vous comprenez? Puis, troisièmement, il faut le marier. Ça veut dire lui donner les moyens de se marier. Et puis, c'est pas facile d'être père de famille, hein, par les temps qui courent. Il faut lui donner les moyens de se marier. Et puis, d'autre part, il faut lui étudier à nager, il faut lui enseigner à nager, veiller son prime à monter à cheval. Et le veiller son prime à monter à cheval, c'est très important. Parce que celui qui ne sait pas monter à cheval. Et je me rappelle très bien que si j'avais pas su nager à la guerre, eh bien, je ne revenais pas. Heureusement, j'avais appris à nager avant. Donc, par exemple. La bicyclette. Grâce à Dieu, monter à cheval, c'est pas difficile à apprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bonne conduite.
C'est interdit de la charité. Comme par exemple, il y a des gens qui font de l'humain,
oui.
Et qui, physiquement, sont capables de travailler. Qu'est-ce que vous faites? Leur donner quelque chose ou bien s'abstenir?
Ça dépend. Ça dépend pourquoi ils demandent l'aumône. S'ils sont capables de travailler, alors ça tu ne peux pas le savoir non plus, ils sont capables de travailler.
Physiquement, ils sont aptes.
Je veux dire, la règle du Shkhanahou, c'est quelqu'un qui vient demander de l'argent en disant j'ai pas de quoi manger, on discute, on ne cherche pas à savoir, on lui donne. Mais ceux qui font de leur profession d'être mendiants, c'est un autre problème. Des fois, on a des surprises. Bon, des fois, c'est tout simplement des gens à double vie, quoi. Ils sont 3 mois dans l'année, ils vivent avec les grands palaces, et puis avec ce qu'ils ont gagné dans le vol, et puis le reste du temps, ils sont dans la mer. On connaît énormément de cas de ce genre. Des fois, on a des surprises, des gens qui se font mendiants pour subvenir aux besoins d'autres qui viennent d'une œuvre de charité. On ne peut pas savoir à l'avance. Mais le problème, c'est que la règle du Chanaour, c'est que celui qui donne la charité ne doit pas savoir à qui il donne, et celui qui la reçoit ne doit pas savoir de qui il reçoit. Parce que la vraie charité, c'est ça. C'est Matana Beseder, ça veut dire en secret. Le problème de la charité, c'est celui qui tire une jouissance du fait de donner la charité.